Ben-Hur, chapitre 19, Ben-Hur entend parler de la naissance de Christ. La contrée qui s'étendait au-delà du village était ondulée et parfaitement cultivée. Elle servait de jardin potager à la ville d'Antioche, et l'on n'y aurait pas trouvé un pouce de terrain qui ne fût labouré et ensemencé. Des terrasses s'étageaient aux flancs rocailleux des collines. Les haies formées de ceps de vigne, non contentes d'ombrager les voyageurs, leur promettaient les trésors de leurs grappes mûres. Les maisons blanches des paysans émergeaient de bosquets d'abricotiers, de figuiers, d'orangers et de citronniers, et partout l'abondance, la souriante fille de la paix, signalait sa présence en ces parages bénis. De temps à autre, on apercevait à l'horizon les hauteurs du Taurus et du Liban, entre lesquelles serpentait l'Oronte. Bientôt, les deux compagnons de voyage atteignirent les bords du fleuve, dont la route suivait les contours, passant tantôt en des endroits plats, tantôt dans de fraîches vallées, au fond desquelles se cachaient des maisons de campagne. Tandis que sur le sol s'étendait comme un manteau la verdure éclatante des sycomores, des chênes et des myrtes, la rivière était baignée dans la lumière dorée du soleil. On aurait pu croire ces eaux immobiles sans l'affluence de bateaux qui la sillonnaient. Les uns se laissaient descendre au fil de l'eau, d'autres tendaient leurs voiles à la brise ou s'avançaient à la force de rames. Les voyageurs se trouvèrent bientôt au bord d'un lac formé par un affluent de l'Oronte. Un palmier de haute venue s'élevait à l'endroit où le lac se déversait dans la rivière. Au moment où la route contournait son tronc séculaire, Malouk joignit les mains et s'écria « Regarde, regarde !» Voici le jardin des palmes. Nulle part, si ce n'est dans quelques oasis de l'Arabie ou dans les fermes des Ptolémées au bord du Nil, on aurait pu jouir d'un spectacle pareil à celui qui s'offrait aux yeux de Ben-Hur. Devant lui se déroulait une plaine sans limite. Un frégazon, le plus rare et le plus merveilleux produit de la terre, en Syrie, recouvrait le sol. On voyait le ciel bleu pâle au travers d'un entrecroisement de grandes palmes, d'innombrables dattiers, vrais patriarches entouraient les eaux bleues du lac. Les bosquets de Daphné étaient-ils donc plus beaux que cela ? Se demandait Ben-Hur. Et les palmes, comme si elles devinaient ses pensées, se balançaient et se penchaient vers lui avec un petit bruissement mystérieux. « Vois ce palmier, » dit Malouk, en désignant du doigt un arbre gigantesque. « Chacun des anneaux de son tronc représente une année de sa vie. Compte-les de la racine aux branches, et quand le cheikh te dira que ce jardin a été planté avant qu'Antioche eût entendu parler des Séleucides, tu ne douteras pas de la vérité de ses paroles. Lorsque j'ai vu le cheikh Hilderim, aujourd'hui même, il m'a paru être un homme fort ordinaire, » dit Ben-Hur. « Les rabbins de Jérusalem le regarderaient de haut, comme le fils d'un chien d'Édomite. Apprends-moi donc, Malouk, comment il se fait qu'il soit en possession de ce jardin et comment il a pu s'y maintenir malgré les gouverneurs romains dont il doit, sans aucun doute, avoir excité la convoitise. Le cheikh Hilderim est de vieille race, fils d'Arius, bien qu'il soit un Édomite incirconcis, répondit Malouk avec chaleur. Tous ses pères ont été cheikhs avant lui. L'un d'eux, je ne saurais dire à quelle époque, rendit un jour un grand service au roi que pourchassait ses ennemis. L'histoire raconte qu'il mit à son service 100 cavaliers qui connaissaient les sentiers du désert et ses retraites comme un berger connaît ses pâturages. Ils l'y firent demeurer jusqu'à ce que l'occasion de tomber à l'improviste sur l'ennemi leur fût offerte, après quoi ils le rétablirent sur son trône. En signe de reconnaissance, le roi fit venir le fils du désert en cet endroit-ci et lui commanda d'y dresser ses tentes et d'y amener sa famille, car le lac et les arbres, ainsi que tout l'espace qui s'étend entre la rivière et les montagnes les plus proches, lui appartiendrait et à ses enfants après lui, à perpétuité. Dès lors, personne ne leur a jamais disputé la possession et tous ceux qui ont régné sur le pays ont toujours estimé qu'il était dans leur intérêt de rester en bon terme avec la tribu dont le Seigneur a tellement multiplié le nombre et la propriété qu'elle exerce à l'heure qu'il est une suprématie incontestable sur tous les grands chemins d'alentour. Elle peut dire, selon son bon plaisir, aux caravanes qui passent « Arrête-toi » ou « Va en paix » et ses ordres sont toujours obéis. Le préfet lui-même, dans sa citadelle d'Antioche, se sent heureux le jour où il apprend que le Shakil de Rime le généreux, ainsi nommé à cause de ses bonnes œuvres, a échangé pour un peu de temps les sources amères de sa patrie contre les délices du lieu où nous sommes. Comment se fait-il donc, demanda Ben-Hur, trop absorbé par ce qu'on lui disait, pour s'inquiéter de l'allure ralentie de son dromadaire, que j'ai entendu le Cheikh maudire les Romains en s'arrachant la barbe? Si César l'avait appris, il aurait pu dire « Je me méfie d'un ami pareil, débarrassez-moi ». Il n'agirait pas mal, peut-être, à son point de vue, en parlant ainsi, car Hilde de Rime n'aime guère Rome, dont il estime avoir eu à se plaindre. Il y a 3 ans, les Parthes attaquèrent une caravane sur la route de Bosra à Damas. Elle transportait entre autres le produit des taxes prélevées sur les habitants d'un district situé de ce côté-là. Ils tuèrent tous les hommes qui accompagnaient cette caravane, ceux qu'on aurait aisément pardonné à Rome si le trésor impérial avait été épargné et rendu à destination. Les fermiers des impôts, responsables de leurs pertes, se plaignirent à César, qui condamna Hérode à payer à leur place. Hérode saisit alors les propriétés d'Hilde de Rime, l'accusant d'avoir négligé ses devoirs et manqué de vigilance. Celui-ci, à son tour, en appela à César, qui lui fit une réponse digne d'un sphinx. Le cœur du vieillard n'a dès lors plus connu la paix. Il nourrit sa rancune et jouit de la voir grandir. Il ne peut rien contre eux, Malouk. Je t'expliquerai tout à l'heure quel espoir il nourrit, mais vois ces petites filles qui cherchent à te parler. L'hospitalité du Cheikh commence de bonne heure. Les chameaux s'arrêtèrent et Ben-Hur se pencha vers quelques petites paysannes syriennes qui lui tendaient leurs paniers pleins de dattes. Ces fruits fraîchement cueillis n'étaient pas de ceux que l'on refuse, et tandis qu'ils se servaient, un homme leur cria du haut d'un des arbres près desquels ils avaient fait halte « Soyez les bienvenus !» Après avoir remercié, les deux amis se mirent en route, sans presser le pas de leur monture. « Il faut que tu saches, » reprit Malouk, qui s'arrêtait de temps à autre pour manger une date, « que Simonide, le marchand, m'accorde sa confiance et parfois condescend à m'admettre dans son conseil. J'ai fait ainsi la connaissance de plusieurs de ses amis, et ceux-ci qui n'ignorent point sur quel pied je suis avec leur hôte, parlent librement devant moi. C'est ainsi que je suis devenu intime avec le Cheikh Hilde de Rime. » Tout à coup, Ben-Hur vit passer devant les yeux de son âme comme une radieuse vision, la pure et douce image d'Esther, la fille du marchand. Il lui semblait sentir encore sur lui son regard lumineux qui exprimait une sympathie si intense. Il croyait entendre le bruit de ses pas quand elle s'approchait tenant la coupe pleine de vin et le son de sa voix l'engageant à boire. Cette vision captivante s'évanouit au moment où il se tourna vers Malouk pour entendre la suite de son récit. « Il y a quelques semaines, continua celui-ci, le Cheikh vint voir Simonide. Je me trouvais justement là, et comme je crus m'apercevoir que quelque chose de particulier le préoccupait, je voulus me retirer. Lui-même me pria de n'en rien faire. « Tu es israélite, me dit-il, reste avec nous. J'ai une étrange histoire à vous raconter. » L'emphase avec laquelle il prononçait ce mot d'israélite me frappa. Je restai, et voici la substance de son histoire. Il t'en dira les détails lui-même. Il y a bien des années de cela, 3 hommes s'arrêtèrent devant les tentes d'Hilde de Rime au désert. C'étaient des étrangers, un hindou, un grec et un égyptien, montés sur 3 chameaux blancs, les plus grands qu'il eût jamais vus. Il leur offrit l'hospitalité sous sa tente. Le lendemain, en se levant, ils prononcèrent une prière que le Cheikh trouva très mystérieuse. Elle s'adressait à Dieu et à son fils. Après avoir rompu le jeûne avec lui, l'Égyptien lui raconta qui ils étaient et d'où ils venaient. Chacun d'eux avait vu une étoile en même temps qu'ils entendaient une voix qui leur ordonnait d'aller à Jérusalem et de demander, lorsqu'ils y seraient arrivés, « Où est le roi des Juifs qui est né ?» Ils obéirent, et l'étoile les conduisit de Jérusalem à Bethléem, où ils trouvèrent dans une caverne un nouveau-né devant lequel ils s'agenouillèrent. Ils l'adorèrent et lui offrirent de riches présents, après quoi ils remontèrent sur leurs chameaux et s'enfuirent. Ils ne s'arrêtèrent que lorsqu'ils furent arrivés chez le cheikh Hilderim, car ils savaient que si Hérode parvenait à mettre la main sur eux, il les tuerait certainement. Fidèle à ses habitudes, le cheikh prit soin d'eux et les cacha pendant une année, au bout de laquelle ils le quittèrent et s'en allèrent chacun de son côté après l'avoir richement récompensé. « C'est une merveilleuse histoire !» s'écria Ben-Hur. « Que me disais-tu qu'il devait demander à Jérusalem ? Où est le roi des Juifs ? Qui est né ? Était-ce là tout ?» Ils ajoutaient encore quelques mots à leur question, mais je ne m'en souviens plus. « Et ils trouvèrent vraiment l'enfant ? Oui, puisqu'ils l'adorèrent. C'est un miracle, Malouk. Hilderim est un homme sérieux. Un mensonge dans sa bouche est impossible. » Ils avaient oublié leur chameau qui broutait paisiblement l'herbe au bord de la route. « Hilderim, n'en sait-il donc pas plus long au sujet de ces trois hommes ?» demanda Ben-Hur. « Que sont-ils devenus ?» Le motif de sa visite à Simonide l'autre jour était justement que la nuit précédente, il avait vu réapparaître l'Égyptien. Où donc ? Ici même, à la porte de cette tente devant laquelle nous allons arriver. Il montait toujours son chameau blanc et le cheikh le reconnut aussitôt. C'était Balthazar, l'Égyptien. « C'est un miracle du Seigneur !» s'écria Ben-Hur avec émotion. « Que vois-tu là de miraculeux ?»« C'est ainsi que se nomme le vieillard que nous avons vu aujourd'hui auprès de la fontaine. »« Ah, c'est vrai, je l'avais oublié. Son chameau aussi était pareil à ceux dont parlait le cheikh. Et tu lui as sauvé la vie !» « La femme qui l'accompagnait était sa fille, » murmura Ben-Hur comme se parlant à lui-même. Puis il reprit, « Que pense le cheikh de tout ceci ? Il attend, avec une inébranlable foi, le moment où cet enfant, entrevu autrefois par ses amis, se manifestera. « Comme roi ? Oui, il prétend qu'il détruira la puissance de Rome. » « Ce vieillard n'est pas seul à caresser des projets de vengeance, » dit Ben-Hur d'un ton rêveur. « Combien de millions d'hommes n'y a-t-il pas qui ont, comme lui, quelque tort à faire expier aux Romains ? Je comprends l'espoir que sa foi lui inspire. « As-tu entendu ce que Simonide lui a dit après avoir ouï son histoire ?»« Hilderim est un homme sensé, certainement, mais Simonide est un sage. J'entendis qu'il répondait, « Mais écoute, quelqu'un vient derrière nous. » On entendait en effet un bruit de roues et de sabots de chevaux. Un instant après, le cheikh Hilderim lui-même parut à cheval. Dans sa nombreuse suite, on remarquait les quatre Arabes béclairs attelés à leur char. Au moment de dépasser les deux amis, le cheikh tourna vers eux sa tête vénérable. « Mon ami Malouk, s'écria-t-il, sois le bienvenu. Viens-tu m'apporter un message du bon Simonide, auquel le dieu de ses pères veuille accorder encore de longues années de vie ? Suivez-moi tous les deux. J'ai à vous offrir du pain et de l'arrac, ou, si vous préférez, de la viande d'agneau. Venez !» Ils le suivirent jusqu'à la porte de sa tente, où il les reçut en leur présentant sur un plateau trois coupes pleines d'une liqueur crémeuse. « Buvez !» leur dit-il. « C'est avec ceci que les habitants des tentes fortifient leurs âmes. » Puis il ajouta, lorsqu'ils eurent vidé leurs coupes, « Entrez maintenant, au nom de Dieu !» Lorsqu'ils eurent franchi le seuil de la tente, Malouk prit le cheikh à part. Après avoir causé un moment avec lui, il se tourna vers Ben-Hur et lui dit, « J'ai parlé de toi au bon cheikh. Il te laissera essayer ses chevaux demain, dès le matin. J'ai fait pour toi ce qui était en mon pouvoir. Le reste te regarde. Il faut maintenant que je retourne à Antioche, où j'ai donné pour ce soir rendez-vous à un ami. Je reviendrai demain et, si tout va bien, je demeurerai près de toi jusqu'au moment où les jeux seront terminés. »